Je vous salue chacun, chacune. On le dit, c'est vraiment pas une routine dans le beau et précieux nom de Jésus. Et ce matin, nous avons, tout au long de cette louange, proclamé le nom de Jésus-Christ. J'y reviendrai dans mon message. Je crois que, dans les temps qui viennent, nous aurons de plus en plus à veiller à cela. Le nom de Jésus-Christ. Nous aurons commencé ce culte avec ce chant, son nom est Jésus. La vidéo que nous venons de voir est au cœur aussi de ce sujet-là. Je vais être franc avec vous, lorsque Siméon, qui vous a vu, Siméon c'est un passionné. Hein, alors, un jour je parlerai sur la passion. Donc, Robert, portes ouvertes, j'ai été touché, etc. Et il a souhaité être délégué de portes ouvertes pour apporter à l'Église des informations sur effectivement les Églises qui sont persécutées. Il faut savoir que portes ouvertes à l'origine, c'est une œuvre qui a été suscitée dans le cœur d'un serviteur de Dieu, André, et qui a démarré en distribuant des Bibles dans les pays où c'était quasiment impossible de pénétrer. Je crois que ça a été d'abord dans les pays de l'Est. Et puis, et c'est à travers ça, au fil des années, que qui dit pays où on ne peut pas distribuer la Bible, dit bien qu'il y a une opposition, et j'en reparlerai. Et petit à petit, au fil des années, l'œuvre existe, je crois, depuis 60 ans exactement. Eh bien, ils ont été amenés à gérer, à faire face à des situations de persécution, eux-mêmes ayant des difficultés à aller dans ces pays. Et voilà, l'œuvre est devenue une œuvre importante. Et nous sommes sollicités au niveau des églises locales par beaucoup d'œuvres comme ça, qui ont envie d'informer les églises, de faire partager ce qui est né dans le cœur de serviteurs il y a un temps. Et je vous avouerai que ce n'est pas toujours facile d'y voir clair. On pourrait chaque dimanche avoir une intervention des uns ou des autres, et ce n'est pas toujours facile d'y voir clair. Alors j'ai dit à Simon, passe-moi donc la vidéo, on va regarder ça. Partagé avec les anciens. Et j'ai été touché. Je vais vous dire franchement, j'ai été touché parce que ça m'a rappelé ma conversion il y a 14 ans, où vraiment mon cœur était bouleversé. Et j'étais amené avec... vous savez, quand le Seigneur ouvre un cœur, il déverse de l'amour, alors il y a toute une générosité. Des fois, on manque un peu de discernement, mais ce n'est pas grave. Et je sais que j'avais vraiment à cœur de donner, de me renseigner, et j'ai eu l'occasion, pendant une dizaine d'années, d'œuvrer pour une œuvre comme ça au Burkina. Et donc, je me suis rappelé, dimanche dernier, Daniel nous a parlé des églises et des dangers qui guettaient les églises à travers les églises de l'Apocalypse. Et il y avait cette question du premier amour, on en a beaucoup reparlé ensemble. Et ça m'a rappelé, Robert, rappelle-toi ton premier amour. Tu manquais peut-être de discernement, mais ton cœur était touché. Alors, je dis à Simon, bon, allez, on passe la vidéo. Et puis du coup, ça va être l'occasion de parler... de la question de la souffrance. Souffrance pour les chrétiens, je parle. Pour autant, le titre que vous verrez, si vous retournez sur le site, ce ne sera pas ce titre de la souffrance. Ce sera « Celui qui vaincra ». Parce que je parlerai aussi de l'église de Smyrne. Hein, Daniel, ceux qui étaient là la semaine dernière, je pense la plupart, bien vu, il y a eu toutes les églises sur lesquelles il y avait des reproches et une invitation à se repentir. Il y avait deux églises... finalement, ce n'était pas les plus costauds. On a vu dans le témoignage, c'est une église faible, mais fidèle, fragile, mais fidèle. Hein, ça fait penser à Philadelphie. Et puis, il y a Smyrne pour la persécution, et je suis sûr que nos frères, dans tous ces pays qui ont été cités, doivent bien connaître ces paroles-là. Je les reprendrai à la fin de mon message. Donc, j'aurais évoqué la question de la souffrance. Parce que, de plus en plus, y compris dans nos milieux évangéliques, se profile parfois un message, viens donc à Jésus, et puis tu vas voir, ça va baigner, ça va être facile, plus de problème, plus rien. J'ai dit, pensez peut-être que j'exagère, mais il y a des moments, c'est quand même ça un peu qui est présenté. Alors évidemment, il y a de grandes désillusions. Alors, la souffrance, le lot de tout homme, il faut le savoir déjà, croyant, craignant Dieu ou ne craignant pas Dieu, de toute façon, la souffrance fait partie de la vie sur cette terre. La Bible nous le dit à travers le livre de Job, dans le chapitre 5 au verset 6, il est dit « Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme, écoutez bien, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » Vous allez dire ben « Robert, il est encore bien parti pour nous encourager aujourd'hui. » Ce n'est pas moi qui le dis, la parole de Dieu est claire. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. l'homme né pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Nous savons qu'elle ne sort pas la poussière, le malheur et la souffrance. Ceux qui connaissent Jésus-Christ savent ce qu'il y a eu. Il y a eu le péché et tout ce qui s'en est suivi, qui a engendré immédiatement la souffrance. Cela, c'est le lot de tout homme, chrétien ou pas. Donc je vais rapidement traiter cet aspect-là. Tout homme qui vient sur cette terre va connaître des souffrances. De la même manière, d'ailleurs, il connaîtra la bonté de Dieu, même s'il ne connaît pas Dieu, même s'il ne veut pas savoir que c'est de Dieu. Là encore, la parole nous dit, dans Matthieu 5, au verset 45, « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Parce que la bonté de Dieu, qui n'est pas le bon Dieu, est immense. Et il se plaît à bénir. Alors il bénit. Je rappelle souvent que être béni n'a rien à voir avec le salut. Dieu bénit parce qu'il aime et parce qu'il aime bénir. Donc, aussi bien la souffrance que les bénédictions font partie de la vie de l'être humain. C'est le lot, finalement, de tout homme depuis la chute, parce qu'il est mortel, et la vie sur cette terre est semée de bénédictions et de souffrances de toutes sortes. L'incroyant, celui qui ne craint pas Dieu et ne l'honore pas, pourra néanmoins vivre une vie longue, pour certains, prospérer sur le plan terrestre, mais l'enjeu, il est autre. Je voudrais vous rappeler le psaume d'Asaph, le psaume 73, où Asaph, un serviteur de Dieu, un croyant, fidèle à un moment, est ébranlé, parce que son regard se porte sur ceux qui ne craignent pas Dieu, mais ils disent, mais dans le fond, moi je souffre, j'ai de la souffrance, j'ai de la misère, Seigneur, je te suis, et regarde celui-là, il prospère, il est méchant, il exploite les autres, et ça baigne pourtant. Et Asaph, à un moment, va dire, oh là là, d'un seul coup, j'ai pris conscience de ma folie. Dieu lui a montré qu'il fallait considérer la fin des choses. Et la fin des choses, celui qui ne craint pas Dieu, celui qui n'honore pas Dieu, celui qui ne rend pas gloire comme c'est dû, à travers la création au moins, eh bien, il sera séparé pour l'éternité. Et là, le serviteur de Dieu se saisit, il dit, j'allais tomber dans la folie. Oui, l'homme, il va dire dans le psaume 73, toujours heureux, en parlant de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain, enfin, il a regardé certains, il n'a pas regardé tous, hein. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Voilà, pour celui qui ne craint pas Dieu, il y a effectivement, et je vous dis ça parce que, même dans ma vie, par moments, on a des moments de faiblesse, le découragement t'entrer, on se dit, mais Seigneur, est-ce que je ne me suis pas trompé? Dans le fond, ça ne se passe pas si mal. Il y en a qui réussissent, les études, ils ont de l'intelligence, ça marche, ça prospère, ça a l'air de bien s'enchaîner. Les affaires, leur vie, ils peuvent même être heureux en couple, ils ont des beaux enfants. Et puis, ça semble continuer comme ça de génération en génération. Je ne vais pas m'étendre sur la question des bénédictions et des malédictions qui se transmettent de génération en génération, mais c'est sous nos yeux. Il y a aussi, c'est vrai, de grandes misères parce que le péché ne laisse pas l'homme incroyant sans problème. Mais ma question ce matin, ce serait de me centrer sur la question de la souffrance pour le chrétien, pour ceux qui ont mis leur confiance en Christ. Et là, qu'en est-il? Alors, on va lire dans la parole, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, les versets 1 à 5. Quelque chose, peut-être, vous n'avez pas remarqué. Est-ce que vous dites, on a déjà assez de problèmes, s'il faut lire les passages difficiles en plus. 1 Thessaloniciens 3, je vais y arriver aussi, moi. Versets 1 à 5. Alors, la lettre, la première lettre aux Thessaloniciens, j'aime beaucoup cette lettre, Paul écrit à une communauté qui est née alors, dans les difficultés, mais des conversions franches et nettes, hein, des gens qui étaient dans l'occultisme, dans tout un tas de choses, la magie, etc., et qui ont abandonné les ténèbres pour se convertir au Dieu vivant. Et Paul les encourage, il commence par leur dire que leur foi est vraiment Il a entendu parler qu'elle était grande, mais il dit quand même, je viens m'inquiéter de savoir si elle tient toujours le coup. Et puis après, il parlera de l'amour. Je sais que votre amour est connu de tous, mais néanmoins, c'est bien. Mais il faut aller plus loin dans l'amour, etc. C'est une lettre assez merveilleuse. Alors, au chapitre 3, il nous est dit ceci. C'est pourquoi, impatients que nous étions avec, je ne sais plus si c'était Timothée, je crois bien, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, oui c'est ça, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de la foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Oh ben ça alors. Vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous qui avez choisi Christ, vous êtes destinés à des souffrances et à des tribulations. Sur cette terre. Alléluia. Personne ne dit Alléluia. Et pourtant, c'est Paul. C'est Paul qui nous écrit ça. Bon. Nous sommes destinés à cela. Nous, chrétiens. Il continue, et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance, que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Paul, pourquoi ? Il s'inquiète. Parce qu'il sait qu'un nouveau converti, et cela nous a été dit par un des pasteurs, nouveau converti qui arrive à la foi, il y a, quand notre cœur est illuminé, il y a une joie, il y a une paix. On est sur un petit nuage, il faut dire ce qui est. C'est normal, puisqu'on est transporté dans les lieux célestes, va nous dire Paul dans la lettre aux Éphésiens. Néanmoins, rapidement, l'ennemi qui a perdu un client va faire ce qu'il faut pour essayer de le récupérer. Et c'est pour ça que Paul était attentif. Il disait, cette communauté démarre bien, il y a vraiment un cœur, des vraies conversions. Mais attention, la vie a commencé de germer, il ne faudrait pas que le prédateur vienne enlever ça. Or, la souffrance et les tribulations peuvent être un sujet qui nous éloigne de Dieu. J'y reviendrai. Il est donc clair que chaque chrétien authentique connaîtra toutes sortes de souffrances et nous ne comprendrons pas forcément tout ici-bas, frères et sœurs. Rappelons-nous les souffrances de Job. Évidemment, nous, on a le livre de Job aujourd'hui. Alors, on connaît la fin de l'histoire. On sait pourquoi Dieu a permis les épreuves de Job. Mais lui, il savait qu'une chose. Au milieu de sa déroute, à un moment, il a proclamé « Je sais que mon Rédempteur est vivant et que je le verrai au dernier jour. » Mais n'empêche, que de souffrances dans la vie de Job. Et pas d'explication. Pas d'explication. Job n'était pas au courant du combat qui se déroulait dans les lieux célestes avec le prince de la puissance de l'air, Satan qui se présentait devant Dieu et qui tentait Dieu et qui disait « Mais ton serviteur là, il t'aime et il croit en toi parce qu'il a la prospérité. Mais enlève-lui ses richesses. Tu vas voir. » Job était un instrument véritablement dans les mains de Dieu qui manifestait sa toute-puissance et sa souveraineté. Alors nous, on a le livre de Job aujourd'hui, mais Job n'avait pas le livre de Job. Eh oui, frères et sœurs, réalisez ça quand vous lisez la Bible de temps en temps. Nous avons le Nouveau Testament. Les premiers disciples ne l'avaient pas. Pensons à Joseph. Jalousé par ses frères. Oh oui, on pourrait dire aujourd'hui, en lisant ces livres-là, dans le fond, Joseph, il a été un peu arrogant, il a reçu une révélation du Seigneur, que les autres se courberaient devant lui, et il a été un peu vantard. Oui, c'est vrai, il a manqué de sagesse, oui. Est-ce que nous, on en manque aussi des fois ? Mais dites donc, si c'est juste pour ça, la sanction était sévère. Au fond du puits, livré comme esclave, tenté par la femme de Potiphar, en prison alors qu'il n'avait rien commis de mal, etc., etc., etc. Pendant 20 ans. Est-ce que Joseph, dans toutes ses tribulations et ses souffrances, des souffrances réelles, parce que le cachot, les prisons, Jean-François le sait bien, ne sont pas très confortables, mais je pense qu'encore du temps de Joseph, ça devait être encore autre chose. Il y aurait bien d'autres exemples de souffrance. Pensez à un conducteur comme Moïse, avec un peuple qui n'arrêtait pas de râler. Heureusement, ce n'est plus le cas dans l'église de Jésus-Christ. Ça, c'est réjouissant. C'est réjouissant, il n'y a plus aucun murmure. Mais Moïse, ça a été difficile quand même. Moïse, ça a été difficile. À peine sorti d'Égypte, 3 jours sans eau, ça y est, c'est la cata. Il a souffert, Moïse. Hein. Nous ne comprenons pas non plus, nous, toujours, le sens de nos souffrances. Ces souffrances, elles sont de tous ordres. Il y a la souffrance physique. Il y a là, et c'est une tension terrible pour nous qui croyons en Jésus-Christ, pour qui l'autorité de la parole est forte, nous qui croyons que verset qui est souvent repris dans ces meurtrissures, nous sommes guéris, et je confirme que le Seigneur guérit toujours aujourd'hui, et nous prions ici pour les malades, et nous croyons, mais nous savons aussi qu'il y a la souveraineté de Dieu. Mais ce verset, il est, parfois je me suis dit, mais est-ce qu'on ne va pas trop loin? Non, dans Matthieu 8, il est repris, il est dit, et il guérit afin que s'accomplisse ce qui est dit par le prophète Esaïe. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors je crois qu'il y a la guérison physique et la guérison aussi complète de l'âme, parce que Esaïe 61 nous rappelle qu'il guérit les cœurs brisés. Nous avons chanté des chants ce matin qui nous rappellent ça. Et nous savons aujourd'hui, reconnaissons-le, la psychologie, tout ça, reconnaît bien qu'il y a un lien. Hein. C'est quand même assez nouveau dans l'histoire. C'est un peu de du 20e siècle, on va dire, toute la notion de reconnaître que quelque chose, un trouble au niveau de l'âme, entraîne un trouble au niveau du corps. Aujourd'hui, pour nous, c'est tellement acquis, cette affaire-là. Hein. Ce que le monde ne veut pas voir, c'est que les troubles au niveau de l'âme, ils viennent de la chute et qu'ils ont une origine spirituelle. Mais ça, c'est ce que nous savons. C'est ce que nous savons et nous ne pouvons pas négliger ça. Je ne mets pas de côté ce qui est les liens de l'âme et du corps, mais nous savons que la racine, elle est spirituelle. Et nous pouvons là-dessus dévier rapidement, dire « Oh oui, mais ça, bon, ça c'est telle maladie, ça c'est telle maladie. » La racine, elle est toujours spirituelle, parce que nous sommes d'abord un être spirituel. Parce que la vie, elle est venue, parce que Dieu a pris de la poussière et il a soufflé. Et notre vie, elle vient du souffle de Dieu. Nous sommes une créature divine. Divine. Qui a chuté. Qui a besoin d'être relevé et restauré. Ça, c'était pas écrit dans mon texte. Donc il y a des souffrances physiques, mais il y a des souffrances morales. Les souffrances morales pour un chrétien, quelles peuvent-elles être? Je ne serai pas exhaustif. Normalement, la première souffrance pour un chrétien né de nouveau, c'est la souffrance liée au péché. Le péché que l'on va voir au moment où nos yeux sont ouverts. On va le voir d'abord chez nous, on va pleurer sur nos péchés. Avons-nous pleuré sur nos péchés à un moment? Et puis ensuite, quand nos yeux, notre conscience va être lavée, va être rendue pure, non pas par des œuvres, mais par la révélation de notre perdition et l'immensité du salut, alors nous allons voir le péché dans la vie de ceux qui nous entourent, dans ce qu'on aime, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de nos parents, dans la vie de nos amis. Et ça, normalement, c'est la première souffrance du chrétien. Est-ce que nous souffrons de ces choses? Ou est-ce que nous nous en accommodons? Pourquoi c'est important? Je ne suis pas maso, je vous l'assure. Il y a une souffrance car nos yeux ont été ouverts sur les conséquences du péché. Et nous voudrions leur épargner les conséquences du péché. Alors nous leur avons parlé, nous prions, mais tant que le jour de la repentance n'est pas arrivé pour eux, il y a une souffrance dans les entrailles d'un chrétien, normalement. Frères et sœurs, cela est normal et nous ne devons pas nous décourager. Souffrance d'autant plus vive que nous réalisons, je parle, là c'est un père qui parle, nous réalisons que les voies qu'ont empruntées nos enfants sont aussi, pour partie, le fruit de nos errements. J'évoque ces choses non pour nous y complaire, mais pour donner des clés lorsque ces choses viennent dans nos cœurs. Si nous nous sommes convertis à Christ, nous réalisons notre propre misère, mais nous réalisons aussi, pour ceux qui se sont convertis à un âge au-delà de l'adolescence, on va dire, et encore, à l'adolescence, on peut prendre conscience de ce qu'on a fait souffrir nos parents, des frères et sœurs, par nos attitudes, par nos recommandations, de leur avoir dit « Mais jouis de la vie, mon gars !» Peut-être de les avoir envoyés dans les décors. Alors là, ça c'est une souffrance morale qui est normale parce qu'elle va nous pousser à la prière, à supplier Dieu, Seigneur, garde-le. Que ces souffrances ne soient pas vaines, mais qu'elles nous conduisent dans la supplication et l'intercession. Le Dieu qui a écouté les supplications d'Abraham pour une ville impie et a sauvé Lot et ses filles, le Dieu qui a entendu la supplication de Moïse, se plaçant entre la colère de Dieu et son peuple, nous entendra et il nous répondra. Mais ces souffrances-là ne sont pas inutiles. C'est elles qui nous amènent au pied de notre Sauveur, au pied de la croix. Dis, Seigneur, tu l'as fait pour ma vie, tu le feras pour mes amis, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes frères et sœurs. Il y a aussi, et aujourd'hui c'est ce que nous évoquons, les souffrances qui sont liées à la persécution en raison de notre foi. Je reviens un peu sur cette vidéo et j'amènerai quelques précisions. La persécution est ici clairement religieuse. Il faut le dire, elle est la manifestation de l'opposition spirituelle entre les ténèbres et la lumière. Là-dessus, c'est évident. Tout système religieux proposant d'accéder à des divinités ou à des puissances supérieures, car l'homme sait qu'il y a une puissance supérieure, et l'homme sait plus que ça. L'homme sait au fond de son cœur qu'il y a un Dieu unique, un Dieu créateur. L'homme le sait, la Bible déclare. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Chaque homme, chaque femme, ici, dans cette salle, sait que Dieu existe. Je ne parle pas du salut en Jésus-Christ. Sait que Dieu existe. Et le Seigneur est un pédagogue. Si tu sais que Dieu existe, rends-lui gloire pour ce qu'il a fait. D'abord. Et donc, tout système qui propose à l'homme d'accéder à des divinités vont proposer des pratiques sacrificielles ou des efforts de l'homme pour se purifier et être acceptable aux yeux de la divinité. Ils vont aussi proposer des médiateurs, soit vivants, soit morts. S'ils proposent des médiateurs vivants dans la chair, ce sera des vivants dans la chair. Ça fera des sectes, on voit un tas de gourous. Et puis, des fois, on propose des médiateurs morts. Que ce soit des saints, que ce soit les parents, les ancêtres. Voilà ce que proposent les religions qui cherchent, qui proposent d'atteindre Dieu par des moyens humains. Alors, je ne vais pas détailler les religions, il en a été donné deux là, il y a tout un tas de philosophies. Aujourd'hui, la mondialisation met à peu près tout à notre porte et dans le supermarché, il n'y a pas de problème, y compris les religions. Donc, je ne vais pas faire un échange là-dessus. Toutes ces pratiques sont censées ouvrir l'accès à la divinité. Pratiquant cela, beaucoup de personnes s'ouvrent en fait à des influences néfastes et attirent sur leur vie des malédictions. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Ce n'est pas sans conséquence. Et aujourd'hui, on est obligé d'y revenir, je crois qu'on y reviendra longuement, jour après jour, à travers les échanges que vous pouvez avoir les uns et les autres, je peux vous confirmer que la mondialisation, de ce point de vue-là, a bien fonctionné. Et le monde aime faire des échanges internationaux, c'est enrichissant, la culture, etc. Oui, peut-être. Je peux vous dire qu'ils se trimballent du monde avec. Des puissances mauvaises, des puissances qui troublent le cœur, des puissances qui souillent, des puissances qui empêchent l'accès au Dieu vivant et vrai. Et seule, la puissance du Saint-Esprit, agissant, parce que Dieu répond à ceux qui l'aiment, Et nous sommes invités, oui, alors à prier, à intercéder, pour que l'Esprit puisse agir et briser ces portes d'airain, ces verrous de fer, qui empêchent, qui aveuglent. Je n'accuse pas, j'étais vraiment touché, j'ai eu l'occasion de le dire. Beaucoup sont entrés dans toutes sortes de pratiques par ignorance, cherchant le bonheur, et ne trouveront que malédiction. Quand des vies sont prises avec ça. Mais lorsque la bonne nouvelle de l'Évangile, à savoir, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il y a un Dieu unique, créateur de tout, et en particulier de l'homme et de la femme, que ce Dieu, malgré la révolte de sa créature, l'a poursuivi de son amour au point d'envoyer son Fils Jésus-Christ mourir sur une croix, afin que nous soyons libérés de la culpabilité liée au péché qui nous retenait prisonniers. Je soulignais ici, et je le soulignerai encore, que la culpabilité n'est pas liée qu'à des poids religieux. La culpabilité, la racine de la culpabilité, c'est le péché. Les religions, pour mettre un joug pesant sur ses adeptes, renforcent cette culpabilité, mais la culpabilité, elle est liée au péché. La culpabilité dans le cœur de l'homme, elle est liée exclusivement au péché. Et à la croix, le péché est pris, la culpabilité est ôtée. Voilà la bonne nouvelle. Que non seulement cela, mais Jésus, l'homme sans péché, est ressuscité dans un corps qui ne connaîtra plus jamais la corruption. Et qu'encore, il a accompli la promesse d'accompagner ceux qui acceptent d'être pardonnés en envoyant le Saint-Esprit qui vient habiter dans ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Alors, lorsque cet évangile-là, et il n'y en a point d'autre, va dire Paul, est reçu dans une vie, alors oui, les ténèbres tremblent. Dimanche dernier, nous chantions, ou mardi, je ne sais plus, quand je loue, l'enfer tremble. Et j'avais cette pensée, je dis j'espère que l'enfer tremble, parce qu'il n'y a plus de prise dans les vies. Alors effectivement, quand il y a la révélation dans un cœur de la vérité, que je viens de vous énoncer, de ce seul évangile, car il n'y en a point d'autre. Et si on vous en annonce un autre, qui ne parle pas de la mort de Jésus-Christ, de la venue du Fils de Dieu en chair, sur cette terre, qui ne parle pas de sa résurrection, qui ne parle pas qu'il est monté au ciel, qui ne parle pas qu'il reviendra régner sur cette terre, et qui ne parle pas qu'il vous accompagnera jour après jour par le Saint-Esprit répandu dans les cœurs, c'est un faux évangile, que celui qui vous l'annonce soit anathème, va dire Paul. Il n'y a qu'un évangile. Frères et sœurs, les temps sont sérieux. Ne soyons pas trouvés légers. Ne prenons pas un petit bout de l'évangile qui nous plairait en laissant le reste. Voilà le véritable évangile. Pas l'évangile de Robert Gibier, pas l'évangile d'une église, pas l'évangile d'un prédicateur dans cette église. L'évangile de Christ. L'évangile de Jésus-Christ. Ce combat-là qui se déclenche lorsqu'une vie est saisie par Christ, il est rude. Car ce n'est pas un combat que l'homme peut mener avec ses propres forces, mais dans la dépendance et la confiance en Dieu. Alors combien la connaissance de la parole de Dieu est alors indispensable, non pas une connaissance théorique ou intellectuelle, mais une connaissance s'appuyant sur des fondements solides. Hébreux 13, verset 5, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. » Et ça, je peux le dire si j'ai lu la lettre aux Hébreux, qui m'annonce que par un seul sacrifice, qui m'annonce que tous les sacrifices de l'Ancien Testament n'ont plus cours, parce que Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité, son sang a coulé par un seul sacrifice, par un seul sacrifice, par un seul sacrifice. Le voile est déchiré, l'accès est ouvert. Alors, je peux dire, et je peux avoir cette assurance, parce que ma foi, elle est fondée. Elle est fondée, ma foi. Elle est solide. Les situations rapportées dans la vidéo que nous avons vue nous présentent des serviteurs combattants selon les lois du royaume. Refus de saisir certains moyens humains, car, dit-il, je leur pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous notez que C'est même des frères et sœurs en Christ qui sont venus voir ces gens. Alors oui, il y a la compassion. Oui, il y a des situations qui nous émeuvent. Et c'est normal. Et laissons-nous émouvoir. Mais ne nous laissons pas emporter par l'émotion. Laissons-nous émouvoir. Mais ne nous laissons pas emporter par l'émotion. Laissons agir l'émotion pour qu'elle dégage la compassion que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Mais ne nous laissons pas emporter par l'émotion qui nous emmènerait dans tout un tas d'enthousiasme, de passion, pour faire ceci, pour faire cela, pour aider. Demandons dépendance à Dieu dans ces situations. Oui, nos frères, des frères et sœurs souffrent dans beaucoup de nations, dans beaucoup de pays. J'y reviendrai. Si nous souffrons, Jean-François a eu raison de dire que nous sommes libres. Et aujourd'hui, nous sommes libres. Ne nous racontons pas. Ne prenons pas ça pour excuse pour ne pas témoigner. Nous sommes libres dans ce pays, jusqu'à ce jour, d'aller dans la rue, de prier selon ce que le Seigneur nous conduit pour des gens qui sont dans la souffrance, de distribuer un traité, d'apporter une parole. Oui, aujourd'hui, nous sommes libres. Quoique, nous sommes libres. Quoique déjà, des lois s'oppose clairement et explicitement à ce que dit Dieu de l'homme. Simplement, le compromis des soifs d'élection, on ne va pas jusqu'au bout du truc qui est écrit, mais c'est écrit. N'oublions pas que quand les choses sont écrites, elles ont une portée. Nous parlons de certaines religions, il y a des textes qui conduisent, qui ne sont pas sans conséquences. On sème, on récolte ce qu'on sème, et quand des choses sont écrites, elles finissent par produire des effets dans les cœurs. La parole de Dieu est une parole de vie, elle produit de la vie. Si ces paroles, si des paroles dans d'autres livres viennent du prince de la puissance de l'air, de ce monde, eh bien elles produisent de la mort. C'est tout aussi simple. Ne nous racontons pas des salades. Ce qui est écrit et produit des effets. Je disais donc que ces serviteurs, ils fonctionnaient sur les bases du royaume. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Une vie de serviteur livré pour veiller sur le troupeau, non comme dominant, mais comme modèle, ça a été dit aussi, un mot qui a été employé. Une vie d'église, une vie de communauté. Quasiment, ils ont cité acte 2, ils persévéraient dans la prière, la communion fraternelle, la prédication de la parole et dans le partage du pain. Il est certain que quand la pression vient, peut-être on s'enracine davantage. Peut-être on s'enracine davantage, je le crois. À condition que notre vie, elle était bien fondée au démarrage. Sinon, on peut arracher, emporter. Et je vais évoquer deux écueils dans ce combat et dans les souffrances qui se rapportent à ce combat du chrétien. Je vais en citer simplement deux qui sont un peu deux côtés où on peut basculer. Le premier recueil, c'est de changer d'arme, de cesser de mener ce combat avec des armes spirituelles et de laisser la révolte et la colère l'emporter. La souffrance, c'est vrai, la souffrance des chrétiens dans l'opposition qu'ils peuvent rencontrer peut amener à un moment la révolte. Peut amener la révolte. Et là, il y a danger. Rappelons-nous l'histoire. Les guerres saintes contre d'autres religions, ce ne serait pas la nouveauté. Attention de ne pas rebasculer là-dedans. Nous ne sommes pas chargés d'engager une nouvelle croisade. Frères et sœurs, veillons, veillons à nos propos, veillons à nos pensées, veillons comment se forme notre opinion sur l'actualité aujourd'hui. Veillons à cela. Nous ne sommes pas chargés de mener des croisades contre telle religion ou tel système de pensée. Ce n'est pas cela que le Seigneur nous demande. Ça s'est déjà fait dans l'histoire, on connaît les résultats catastrophiques. Ça peut être des guerres entre des hommes se prévalant tous du Christ. Ça peut être aussi, dans une époque plus récente, Je pense aux Huguenots, hein, qui ont connu des persécutions terribles. Certains sont restés dans le combat spirituel, d'autres à un moment ont pris les armes. Et pourtant, vraiment, c'est des hommes, des femmes, qui avaient reçu Christ dans leur cœur. Mais ne négligeons pas la souffrance à un moment, la durée de l'épreuve. Nous avons, je crois, cette année, à travers plusieurs églises, été éprouvés. Et une épreuve, des fois, ça dure. On démarre, on tient bon, je suis... Et puis on peut. Seigneur, frères et sœurs, on ne peut pas s'en sortir seul. Nous ne pouvons sortir de cela que dans une complète dépendance au Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Ne négligeons pas les effets que peuvent avoir une souffrance, une épreuve qui dure. Si le Seigneur nous a placés dans un corps, c'est bien parce qu'il y a des choses, on a besoin de la consolation de Dieu, de garder la relation et aussi des frères et sœurs. Donc les moteurs de cette dérive qui va devenir une guerre sainte, qui n'a rien de sainte d'ailleurs, c'est la fatigue, le découragement qui nous révèle l'impatience aussi. Quand on est découragé, c'est parce qu'il y a une forme d'impatience. Nous ne sommes pas Dieu. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Nous, on a toujours des objectifs, on voudrait bien en sortir, et des fois c'est long. C'est l'impatience, ça peut être la volonté de domination. Finalement, une identité qui n'a pas été bien placée au bon endroit, au lieu d'être en Christ, elle est dans l'appartenance à un groupe. Nous, on est chrétiens. Eux sont ceci, cela. Attention, chrétien, c'est appartenir à Christ. Nous ne sommes pas un lobby d'une quelconque manière. Nous n'avons pas à être un lobby. Nous sommes des rachetés de l'Éternel, unis. Parce qu'il nous a montré notre misère, mais il nous a délivrés, il nous a rendus de cette vraie liberté. Et nous sommes heureux d'être avec des frères et sœurs quand il y a l'attestation du Saint-Esprit, que nous appartenons bien au même Dieu. Voilà les risques lorsque la souffrance dure, l'épreuve dure. C'est un des risques, c'est de changer d'arme, laisser le combat spirituel avec une arme qui est l'amour et la vérité pour un autre combat. L'autre risque, devant la fatigue ou l'usure que provoque la souffrance, c'est de faire l'unité à tout prix. Finalement, on a le même Dieu, il y a du bon partout et chez tous, en contradiction flagrante avec ce que dit Dieu lui-même de l'homme. Cette attitude a des causes multiples, le désir d'être accepté et acceptable, aussi la lassitude, depuis si longtemps et si peu de résultats. Soyez attentifs à cela aussi. Nous aimons tellement voir des résultats. Et nous sommes heureux quand un cœur se livre vraiment à Dieu, mais nous savons bien que notre part est si peu dans cela. C'est particulièrement vrai, je crois, pour des responsables d'église. Le Seigneur m'apprend. Nous appartenons chacun à Christ. Nous n'appartenons pas à des hommes. Et nous devons prendre garde à tout ce qui est... en prise de contrôle, tant subie que portée sur les autres. Alors, quand on est fatigué de tout ça, on risque effectivement de trouver une consolation humaine dans le grand nombre, en laissant de côté pour le coup la doctrine ou les articles qui fondent notre foi. Le mot d'ordre, c'est « prenons le meilleur chez chacun et faisons l'unité ». Cela n'est pas possible. Le pas suivant, dans cette démarche-là, mettra Christ de côté, du moins son sacrifice, en raison de la mauvaise presse qu'a le péché. Et puis, on expliquera qu'il faut développer les dons naturels, etc. Faisons attention, c'est un grand danger aussi qui guette nos vies chrétiennes et nos églises. Le scandale de la croix s'estompera et le nom de Jésus-Christ venu en chair ne sera plus prononcé. Il y aura de beaux discours, il y aura des orateurs brillants qui mobiliseront les foules On aura des événements, on aura de l'enthousiasme, on aura de la passion. Mais on aura perdu Christ. Veillons. Ce n'est pas pour dans 50 ans. Ce jour est là. En conclusion, mon message, c'est celui qui vaincra. Et là, je voudrais vous donner un témoignage personnel. En préparant ce message, le Seigneur m'a rappelé. Vous savez, je ne dis pas souvent, le Seigneur m'a dit. Je voudrais simplement vous témoigner. Le 1er janvier 2011, tandis que j'étais chez moi, pendant mon petit déjeuner tranquillement le matin, j'ai vraiment, en lisant la parole, je lisais l'Apocalypse, justement Apocalypse 3, versets 10 et 11. Apocalypse 3, versets 10 et 11, c'est deux versets qui, dans le cadre de ce que le Seigneur Jésus adresse à l'église de Philadelphie, le Seigneur disait ceci, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Je n'avais pas bien compris ce verset à l'époque. Enfin, si, j'avais bien compris ce verset. Du Seigneur, ouais, ok, je vais garder ta parole. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi, Jésus-Christ, je te garderai. Tu ne pourras pas te garder seul. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver, écoutez bien, pour éprouver les habitants de la terre. La tentation pour éprouver les habitants de la terre. Je ne développe pas ce thème-là, mais on est quand même dans ces moments-là. Et puis l'année suivante, le 1er janvier 2012, c'est Jérémie 15, versets 15 à 19. Jérémie 15, versets 15 à 19. Jérémie est un homme qui a beaucoup souffert. Qui a beaucoup souffert parce qu'il avait une mission, franchement, Seigneur. Aller parler à un peuple qui ne veut pas entendre, c'est pas rien. Et ça a duré pour lui des années et des années et des années. Ce qu'il était chargé de prévenir pour que la catastrophe ne se produise pas, eh bien, personne ne l'a écouté. Ils l'ont même fait taire. Bon, il a continué de parler parce que le Seigneur l'a fait sortir du trou. Mais n'empêche qu'ils sont partis en déportation quand même. Et c'est pas facile. Et à un moment, il se plaint au Seigneur. Et j'avais... Ces paroles étaient, dans les circonstances que je traversais, elles avaient du sens. Verset 15, « Tu sais tout, Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Je peux vous dire que ça, c'était vraiment lorsque le Seigneur m'a pris, et encore aujourd'hui, « Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. » Et c'était ces versets, « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr ?» Vous voyez, le serviteur de Dieu, Jérémie, en plein dans son ministère, il a un moment difficile. Serais-tu, il va jusqu'à dire, serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr ? Il y a un trouble. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi. Voilà cet homme qui est au profond de la détresse dans son service, et que lui dit Dieu ? Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Écoutez bien, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Frères et sœurs, il y a là, je voudrais être bien compris, Seigneur, frères et sœurs. Il ne s'agit pas de rejeter avec dédain, mais si nous voulons tenir dans l'épreuve, il faut, un, nous rattacher à lui, à la personne de Jésus, avoir cette communion venir à lui. Ça veut dire, je suis désolé, si le fiancé, l'épouse, l'ami, on prend du temps avec lui. On prend du temps. Nous étions dans un groupe de prière jeudi et plusieurs partageaient la pression de toutes parts. Encore ce matin, un frère me disait, ça nous presse. Pharaon n'a pas changé. Pharaon nous enverra encore chercher de la paille pour faire la même quantité de briques. Ne croyez pas que Pharaon changera. C'est à nous de dire, Seigneur, c'est toi qui m'as sauvé. Je veux prendre du temps, se rattacher. Et deuxièmement, mais c'est comme la solution, comment trouver du temps? Eh bien, séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. À quoi passons-nous notre temps? Seigneur, il donne les solutions. Il dit, prends du temps avec moi. Mais Seigneur, je n'ai pas le temps, tu vois bien. Réanalyse ton emploi du temps. Réanalyse ton emploi du temps. Sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Peut-être tu fais ce qui est bon, mais fais-tu ce qui est agréable à Dieu? Fais-tu ce qui est parfait? Et là, je reviens. Nous avons vraiment besoin de discerner et Seigneur, viens nous aider dans tout ce qui nous est proposé, dans tout ce que même nous proposons peut-être à l'Église comme activité. Il faut, nous avons besoin de nous retrouver. Seigneur, que nous ne perdions pas notre temps à des choses vaines. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et je ne me laisserai asservir par rien. Frères et sœurs, c'est concret. C'est extrêmement concret. Et si nous voulons tenir dans les temps, nous avons à nous rattacher et à séparer. Séparer, ce n'est pas rejeter, c'est pas la méchanceté. Et je demande pardon à certains, vraiment de tout mon cœur. Parfois, mon impatience amène l'irritation. Ce n'est pas bon. J'ai relu, le serviteur de Dieu, il doit être affable. Seigneur, viens m'aider. Tu as été patient avec moi, Seigneur. Que je sois patient avec mes frères, que je puisse les aimer. Mais c'est vrai qu'il y a, par moments, mais c'est cette souffrance que je vous ai parlé tout à l'heure. Quand on voit des vies qui se permettent de vie, de gens qui se sont donnés à Dieu, mais qui perdent dans des fadaises. Les temps sont courts. Ne perdons pas de temps. Pourquoi ces textes en conclusion? Les temps que nous vivons ont des caractéristiques objectives sur le plan spirituel. C'est curieux de rebrocher ces deux mots. Hein. Des caractéristiques objectives sur le plan spirituel. Retour d'Israël comme nation, avancée de l'apostasie, montée de la manifestation de la révolte. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Hein. La révolte dans le cœur de l'homme, ce n'est pas d'aujourd'hui. Par contre, ce qui a changé, et ce qui change, sous nos yeux, c'est les moyens de propagation massifs, instantané. Et ce qui fait que la révolte, elle se développe. Regardez comment, en quelques SMS, chat, ou je ne sais pas quoi, enfin bref, j'en sais rien, on peut organiser une manif contre ceci, une manif contre cela, des milliers de personnes se révoltent. C'est la révolte. Psaume 2, les nations, pourquoi les nations se révoltent-elles contre leur Dieu et contre son oint? Elles sont comme des gouttes d'eau dans un seau. Le Seigneur rit. C'est terrible. La révolte augmente. C'est des signes objectifs des temps où nous sommes. Ne nous confions pas en notre propre sagesse, mais acceptons d'être gardés par celui qui nous a sauvés. Je te garderai lors de la tentation qui vient sur le monde. Se rattacher à lui, se lier, c'est-à-dire être dépendant de celui qui nous a rachetés, c'est logique parce que nous lui appartenons, figurez-vous. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et pour terminer ce message, nous lirons dans Apocalypse 2, versets 10 et 11. Apocalypse 2, versets 10 et 11. Donc à l'église de Smyrne, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. » Je te donnerai la couronne de vie. Écoutez bien le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Nous allons mourir, la plupart d'entre nous. Je dis la plupart parce que si le Seigneur revient, tandis qu'un certain nombre d'entre nous sont vivants, ceux-là ne mourront pas. Mais la plupart d'entre nous, nous allons mourir une première fois. Mais là n'est pas l'enjeu. L'enjeu, il est le jugement dernier. Serons-nous parmi les brebis ou parmi les boucs? Et notre espérance, elle est là. Si Christ est dans nos vies, si nous sommes bien attachés à lui, nous savons où nous allons. Je vais demander pour terminer, je vais prier que l'équipe de louanges vienne et reprenne ce chant « Purifie mon cœur ». Parce que je crois que s'il y a cette séparation qui se fait, et seul Dieu le peut la faire, je vous en supplie, ne commencez pas à sortir d'ici en disant « Alors là, je vais faire le tri, puis moi je vais décider ». Demandez au Seigneur qui sonde votre cœur. Et lui, avec sa parole, qui est tranchante, pénétrante, elle va séparer ce qui est précieux, ce qui est vil. Je peux vous dire avec clarté. Demandons au Seigneur cela à travers ce chant.